Vous écoutez France Culture, il est 8h, le journal est présenté par Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Le mouvement de grève depuis début juillet chez les sapeurs-pompiers s'étend. Comme les urgentistes, ils réclament davantage de moyens car leurs activités augmentent. Une grève que la direction essaie de casser dans le Val d'Oise, vous l'entendrez.
Nous ferons ensuite un point sur les municipales à Paris. Vues par les écologistes, ils ont de grandes ambitions, mais ils partent de loin.
Dans ce journal aussi, nous irons dans la capitale pakistanaise, Islamabad. Une manifestation s'y est tenue hier pour demander l'intervention de l'ONU dans le partage du Cachemire avec l'Inde.
La Colombie s'apprête à naturaliser 24 000 enfants vénézuéliens. Elle leur évite ainsi le risque d'être apatrides, vous le comprendrez.
Et puis une analyse en fin de journal, analyse du style littéraire de Toni Morrison. L'écrivaine afro-américaine, prix Nobel de littérature, est morte à l'âge de 88 ans. Mais d'abord, cette jolie initiative positive en ce mercredi matin. Cela se passe au nord de Paris, dans le Val d'Oise, à Garges-lès-Gonesse. Une association locale a mis au défi les jeunes habitants de nettoyer leur quartier. Défi relevé hier par une poignée d'entre eux. Et Sarah Ders y était avec le micro France Culture.
Ils sont une vingtaine de jeunes à avoir enfilé leurs gants avec des pinces et des sacs poubelles à la main pour ramasser les déchets. Parmi eux, Jamel, 22 ans.
J'ai rien à faire de ma journée, j'allais rentrer chez moi, me mettre dans mon canapé. Bon, au final, je me suis peut-être un peu sali les mains, mais on a fait quelque chose de constructif pour la cité. Peut-être que ça va motiver pour plus tard, en fait, parce que ça, c'est quelque chose qui en entraîne une autre, en fait. C'est toujours comme ça. Ça a été un déclic, nettoyer votre quartier. Ça se trouve, demain, on aura un déclic, faites votre tri. Manger bio, je sais pas moi.
Dans le quartier, on trouve cette opération nettoyage vraiment utile, comme en témoigne Eddy, la concierge de l'un des immeubles.
Vous voulez-vous qu'ils mettent leurs déchets et regardez la propre poubelle que vous avez au coin de la rue, la poubelle municipale, il n'y a pas de sac dessus. On n'a pas de sac, on n'a rien, donc où mettre nos ordures? Ils font quoi? Ils mettent directement par terre.
C'est pas ça.
C'est vraiment regrettable le jour d'aujourd'hui, regardez l'état du quartier.
Faire briller la cité et respecter l'environnement, c'est l'objectif de l'association. Pour y parvenir, sa fondatrice, Inda Yadi, a eu l'idée de ces défis entre cités pour stimuler les jeunes. Celui qui nettoiera le mieux son quartier, et ça fonctionne plutôt bien.
La dernière fois, on marchait, il y a ma cité. Ma cité va briller, ils sont là, nettoyez bien et tout ça. Donc, on communique énormément avec eux par le biais des réseaux sociaux, forcément, hein, c'est leur génération. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils se défient énormément à travers des rivalités interquartiers. Donc, on s'est dit, là, on va se défier, mais pour la bonne cause.
Un challenge qui va s'étendre à d'autres villes, à Marseille par exemple, et même beaucoup plus loin, jusqu'aux Antilles françaises.
C'était un reportage France Culture de Sarah Ders. Je vous le disais lors du sommaire de ce journal, la grève des sapeurs-pompiers se poursuit alors que les feux de forêt et de broussailles se multiplient dans le sud de la France. Dernier en date en Ardèche cette nuit où plus de 250 pompiers sont mobilisés. Parallèlement donc, ils font une grève symbolique. Depuis un mois, brassard au bras pour demander de meilleures conditions de travail, une revalorisation salariale et un sens à leur travail. Jérôme François est le secrétaire général UNSAS 10. Il dénonce des interventions en hausse qui ne correspondent pas à leur mission première.
Les pompiers de plus en plus sont engagés sur des missions qui ne relèvent pas de l'urgence et se retrouvent à faire le taxi pour faire du transport de malades, ce qui n'est pas la vocation première des sapeurs-pompiers. Ça, c'est un double impact. D'une part, ça sursollicite les agents et il y a une véritable fatigue derrière, mais il y a aussi une fatigue, j'allais dire, psychologique, parce que lorsque vous faites le choix de devenir sapeur-pompier, vous êtes là pour faire de l'urgence. Quand vous vous retrouvez à longueur de journée à faire des personnes en ivresse sur la voie publique ou à faire du transport de malades, ça n'est pas le contrat que vous avez signé au départ. Vous vous retrouvez à faire un métier que vous n'avez pas choisi. Aujourd'hui, c'est un chiffre qui est en constante hausse. On a des jeunes qui rentrent dans la profession et qui sont déçus et qui quittent la profession de manière massive.
C'est donc pour toutes ces raisons que les pompiers portent des brassards de grève depuis un mois. Au nord de Paris, cela ne plaît pas à leur hiérarchie. Certains sont visés par des procédures disciplinaires pour refus d'obéissance. La faute à ce bout de tissu porté au bras, Pierre-François Plessis.
C'est un simple brassard sur lequel est inscrit la mention « en grève ou en colère ». Michael Netto, pompier à Louvre, le porte depuis le début du mouvement. Pour avoir refusé de le retirer sur demande de sa hiérarchie, il se retrouve convoqué dans 3 semaines et risque jusqu'à une journée de mise à pied.
Forcément, il y a un risque pour la carrière, bien évidemment pour l'évolution, puisque le fait d'avoir une sanction inscrite dans notre dossier va peut-être freiner à la démutation ou pour postuler à d'autres postes. Et ensuite, le fait d'être en jour d'exclusion, oui, un impact aussi financier qui correspondrait à un dixième de mon salaire.
Le secrétaire général de la CGT sapeurs-pompiers du Val-d'Oise, Peter Gourouchaga, a assisté aux deux premiers entretiens. Ses collègues ont tous deux écopé d'un blâme.
Pour nous, c'est une entrave à la liberté d'expression et du droit de grève. Parce qu'il faut savoir que les sapeurs-pompiers, pour la plupart, ne peuvent pas exercer leur droit de grève. Et c'est bien normal, c'est-à-dire qu'on a la continuité du service public. Donc il faut bien qu'il y ait des pompiers pour continuer à aider les gens, malgré que le service soit déjà en déficit en fonctionnement normal. Il faut bien qu'ils trouvent un moyen de s'exprimer, parce que on pourra pas nous étouffer totalement et nier la réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les sapeurs-pompiers sont en souffrance.
Ces derniers jours, l'annonce des premières convocations a déclenché la solidarité des autres pompiers du département. Ils sont désormais une trentaine à être menacés de sanctions.
3 mois et demi après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 175 enfants habitant le quartier ont été soumis à des plombémies pour mesurer le taux de plomb dans leur organisme. Selon l'Agence régionale de santé, 18 de ces enfants ont un taux au-dessus du seuil de vigilance. Les candidats aux municipales du printemps prochain ne prennent pas de vacances. Preuve en est cet appel dans les colonnes du Parisien. Les écologistes à Paris demandent une alternance de leadership bienveillante, une alternance que les Verts veulent diriger Nicolas Ballu.
Les résultats des élections européennes ont rarement des conséquences durables. Il n'empêche, hier, David Cormon, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, et David Béliard, le candidat écologiste parisien, ont répété ce que disait déjà Yannick Jadot il y a 2 mois. Et ils insistent, les Verts doivent gouverner la capitale et c'est possible. Parce que ce serait le sens de l'histoire et que les écologistes sont arrivés devant place publique en mai dernier. Europe Écologie veut mettre cette idée dans les têtes des électeurs avant d'imposer un candidat encore inconnu du grand public. Autre exercice délicat, David Cormon et David Béliard ont pris le soin de revendiquer le bilan de la maire de Paris, Anne Hidalgo, tout en se dissociant d'elle. Le plan vélo, la piétonnisation des berges de Seine, c'est le bilan d'Anne Hidalgo directement inspiré des écologistes. On ferait mieux si nous étions à la tête de Paris, disent-ils. Mais comment changer les rapports de force à gauche? Arriver en tête au premier tour pour ensuite rassembler. Les discussions avec d'autres forces politiques sont en cours, comme le Parti Pirate, le Parti Animaliste, Urgence, Écologie. Il y aura des places pour des candidats extérieurs, assure David Béliard. Côté programme à gauche, c'est le risque de course à l'échalote écologique qui guette les candidats. Pour les Verts, il en sera question fin août, lors des journées d'été de Toulouse.
Un hélicoptère et 178 personnes ont été mobilisées hier en Malaisie. Tous recherchent une jeune franco-irlandaise âgée de 15 ans. Elle a disparu en pleine nuit dans sa chambre d'hôtel près de la forêt tropicale il y a quelques jours. Sa famille redoute un enlèvement. Il est 8h08, vous écoutez France Culture. L'actualité ce matin, elle est marquée également par le Pakistan qui veut porter la question du Cachemire devant les instances internationales. Son premier ministre l'annonçait hier au lendemain de la révocation par l'Inde d'une partie du Cachemire. Une partie contrôlée par New Delhi mais qu'Islamabad revendique. C'est d'ailleurs à Islamabad, capitale pakistanaise, qu'une manifestation a eu lieu hier. Notre correspondante Sonia Ghezali s'y est rendue et elle raconte.
Je suis Cachemiri et je déciderai de mon avenir, un slogan inscrit en grosses lettres sur une large pancarte rouge et noire. Certains manifestants brandissent, eux, les drapeaux vert, blanc et orange du Cachemire. Mohi Baraf est originaire de ce territoire. Il se dit révolté par la décision des autorités indiennes.
Ils ont annulé l'article 35 et l'article 370. Les Indiens, ils peuvent désormais s'installer là-bas. Ils peuvent y acheter des terres, ils peuvent y ouvrir des commerces. Ils essaient d'anéantir les droits des Cachemiris. C'est pour ça que nous manifestons.
Dans le cortège, Shafiq Ahmad, il est le représentant de l'Assemblée des jeunes du Cachemire. Il vit à 5 heures de route d'Islamabad, dans un village du Cachemire pakistanais. Il a fait le déplacement pour participer à cette manifestation et transmettre son message.
Nous voulons que les Nations Unies interviennent pour qu'un plébiscite ou un référendum soit organisé dans les deux parties du Cachemire pour que les Cachemiris fassent leur propre choix.
Que l'Inde nous rende notre liberté, que Modi nous rende notre liberté, les manifestants scandent ces slogans à gorge déployée. Ils ne sont environ qu'une centaine, d'autres manifestent ailleurs dans la ville. Il faudrait être plus nombreux pour se faire entendre, se désole Sadra, sa fille âgée de 2 ans dans les bras.
J'aimerais qu'il y ait plus de monde. Je voudrais que tous les Pakistanais se lèvent pour les Cachemiris et ressentent la peine de ceux dont les enfants ont été tués. Ils sont comme notre famille.
L'ONU doit intervenir, c'est ce que réclame l'ensemble des manifestants. Et le gouvernement pakistanais doit s'imposer plus pour cela, selon eux.
Sonia Ghezali, correspondante de RFI à Islamabad pour France Culture. Des manifestations, par ailleurs, ont également eu lieu dans le Cachemire indien, malgré l'interdiction de New Delhi. Certains habitants évoquent 6 blessés, notamment par balles. Une énorme explosion a retenti ce matin à Kaboul. Les habitants décrivent un nuage de fumée, un champignon de fumée dans le ciel, ainsi que des vitrines brisées par dizaines autour d'un commissariat. Au moins 34 personnes ont été hospitalisées selon un premier bilan. Cette attaque intervient au lendemain d'une annonce des talibans. Ils ont promis de tout faire pour empêcher la tenue d'élections présidentielles en Afghanistan. L'élection est prévue le 28 septembre prochain. Ce sont, dit-il, des avertissements. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un met en garde Washington et Séoul qui mènent des manœuvres militaires conjointes dans la péninsule en ce moment. Pyongyang a pour cela, pour cet avertissement, tiré 6 projectiles ces 2 dernières semaines. 24 000 enfants vénézuéliens vont être naturalisés en Colombie. Le président Iván Duque vient de signer un décret en ce sens alors que l'on fête aujourd'hui le 200e anniversaire de l'indépendance colombienne. Le président comble ainsi un vide juridique qui existait depuis 2015, depuis l'arrivée massive de ces familles venues du Venezuela. Elles ont fui la misère et la répression, Nadine Epstein.
La Colombie ne reconnaissant pas le droit du sol, ces enfants, à qui le Venezuela, pays de leurs parents, n'accorde pas non plus la nationalité, Bogota et Caracas ont rompu leurs relations, ces garçons et ces filles n'avaient pas de citoyenneté et risquaient de devenir apatrides. Ils vont désormais pouvoir demander à être colombiens. Depuis 4 ans, près de 4 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays en ruine. C'est le plus massif déplacement de population de l'histoire de l'Amérique latine. 1,5 million de ces femmes, hommes et enfants, ont gagné la Colombie. Beaucoup de familles sont parties de chez elles avec un sac à dos, quelques pesos et ont dû marcher des centaines de kilomètres à pied. Une frontière de 2200 kilomètres sépare le Venezuela de la Colombie. De nombreux jeunes ont rejoint Bogota, la capitale colombienne qui a fermé les camps d'immigrants, connaît quelques incidents et manifestations xénophobes. Mais globalement, la Colombie se montre solidaire et consacre aux réfugiés 10 milliards de dollars selon la Banque mondiale.
Et pendant ce temps, le Venezuela, lui, est toujours en crise, crise économique, sociale et politique. Les États-Unis ont ordonné le gel des biens que détient le gouvernement vénézuélien aux États-Unis. Et dans la foulée, les autres soutiens de l'opposition ont affirmé qu'ils misaient justement sur ce type de sanctions pour provoquer la chute du président socialiste Nicolas Maduro. Donald Trump est attendu aujourd'hui dans l'Ohio à Dayton, puis au Texas à El Paso. Les deux villes ont connu 2 fusillades meurtrières le week-end dernier, faisant 31 morts au total et des dizaines de blessés. Le président américain avait condamné la haine et les suprémacistes blancs, mais il n'a pas annoncé de mesures fédérales sur la circulation ou le contrôle des armes à feu dans le pays. Donald Trump qui n'a rien dit, rien écrit sur le décès de Toni Morrison. Elle avait 88 ans. Prix Pulitzer en 88 pour son roman Beloved, première femme noire lauréate du prix Nobel de littérature en 93. Le jury du Nobel avait d'ailleurs déclaré, en lui décernant le prix, Toni Morrison a donné vie par sa force visionnaire et ses emprunts poétiques. Elle a donné vie à un aspect essentiel de la réalité américaine. Elle a en effet mis en lumière l'histoire des Noirs américains. Ses livres sont à la fois d'une grande véracité tout en restant profondément romanesque, Ilan Malka.
Dans l'un des chefs-d'œuvre de Toni Morrison, Beloved, nous sommes au 19e siècle en pleine Amérique ségrégationniste. Une femme, Cess, reçoit la visite du fantôme de sa fille, cette fille qu'elle avait elle-même tuée quelques années auparavant pour la faire échapper à l'esclavage. Dans Beloved, tout ce qui fait le style irremplaçable de Toni Morrison est présent. L'histoire des Noirs américains, son thème de prédilection, est racontée dans toute sa violence, toute sa cruauté. Mais au réalisme historique se mêlent des pointes de fantastique, d'onirisme. Les morts parlent avec les vivants, le passé et le présent se répondent, la chronologie du récit est bousculée. Le style littéraire est parfois proche du langage parlé, parfois proche de la poésie aussi. Il peut même tendre vers le surréalisme et vers l'abstrait. Dès son premier roman, L'œil le plus bleu, en 1970, Toni Morrison raconte la difficulté d'être une enfant noire et pauvre dans l'Amérique des années 40. Dès ce coup d'essai, tous les thèmes qui vont hanter son œuvre sont déjà là. Comment vivre avec le rejet, l'intolérance et la violence? Comment surmonter ces traumatismes? Dans 11 romans écrits entre 1970 et 2015, Toni Morrison raconte ce qu'est être noir à toutes les époques dans la société américaine. Son livre intitulé « Un don » a pour cadre le XVIIe siècle, « Home » se passe dans les années 50 et « Délivrance », son dernier roman, se déroule de nos jours. Si beaucoup de ses livres sont profondément désespérés et tragiques, d'autres peuvent aussi comporter des touches d'espoir. C'est le cas de Délivrance, par exemple. Échappant toujours au simplisme et au manichéisme, Toni Morrison nous laisse une œuvre aussi riche qu'indispensable.
Toni Morrison, qui avait 88 ans, sa vie, son œuvre, dans les matins d'été de France Culture ce mercredi. La discussion débute dans un instant, Benoît, avec vos invités. Juste oui. Le temps pour moi de vous donner la météo du jour.
Allez-y.
Les orages seront encore nombreux sur une grande partie du pays, notamment de l'Ain jusqu'au Tarn-et-Garonne. Les éclaircies, en revanche, seront belles sur le nord-ouest et le sud-est. Et comptez ce matin 19 degrés à Paris, Brest, Dunkerque, 21 degrés à Strasbourg et Bordeaux, 26 à Perpignan, 30 degrés sur la Corse.